RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, ils sont plus de 400 000 à avoir fui la Birmanie, direction le Bangladesh. Les Rohingyas ou Rohingya, la prononciation dépend des régions, cette minorité musulmane réprimée depuis le 25 août dernier, depuis une attaque d'un groupe rebelle Rohingya contre des policiers. C'est le plus grand exode de l'histoire de cette population. L'ONU qualifie ces violences d'exemple parfait de nettoyage ethnique. Notre correspondant dans la région, Sébastien Farcy, s'est rendu dans des camps improvisé de Rohingyas au Bangladesh pour voir comment ils survivent et surtout témoigner des crimes dont ils sont victimes.
Une véritable marée humaine a envahi l'une des rues du village de Kutupalong. Il a plu pendant la nuit et ce matin, la voie de terre s'est transformée en une rivière de boue. Malgré cela, des milliers de personnes font ici la queue en pataugeant. Immobiles, compressés par manque de place, ce sont des réfugiés Rohingyas. Et ce qu'ils attendent, c'est tout simplement de la nourriture.
Nous sommes ici depuis ce matin. Je suis épuisé et j'ai faim.
Il faisait jour quand il a commencé.
Je suis arrivé à l'aube. Ça fait 4 heures que je suis ici. Quand est-ce que nous aurons à manger ?
Ce 9 septembre, le Programme alimentaire mondial de l'ONU a lancé une distribution de riz pour ces Rohingyas réfugiés dans le sud-est du Bangladesh. C'est la première depuis le 25 août et l'afflux massif de centaines de milliers de personnes dans la région. 16 000 familles de réfugiés sont inscrites dans le registre de l'ONU, soit environ 75 000 personnes. Cette distribution doit donc être faite en plusieurs jours, mais ceci est difficile à organiser, comme l'explique Azad, un humanitaire de l'association bangladaise Mukti, qui est en charge de cette mission pour l'ONU.
C'est le premier jour de cette distribution. Nous avons divisé les bénéficiaires en 10 groupes, un par jour pendant 10 jours. Mais aujourd'hui, tous les bénéficiaires sont venus d'un seul coup. C'est donc une situation très difficile à contrôler.
La foule est agitée et pousse de plus en plus vers la porte en fer qui abrite le centre de distribution. Les hommes pressent d'un côté de la rue et de l'autre, les femmes, souvent accompagnées de petits-enfants, perdent patience. Leurs nerfs sont à vif, ils brandissent tous leurs coupons de rationnement bleu dans leurs mains.
Mon mari est mort et on vient de me prendre ma carte pour la nourriture. Je ne sais pas si je pourrais manger aujourd'hui.
Les humanitaires sont dépassés. Ils doivent contre-attaquer et sortent alors des bâtons et les brandissent à leur tour d'un geste menaçant pour forcer les réfugiés à reculer. Le bâton ne s'abat pas sur eux, mais déjà les regards aveuglés par la faim jusqu'à présent se calment. Les Rohingyas reculent, certains s'assoient à terre d'un air plus docile.
Cela fait 3 ans et demi que je travaille dans ces camps de Rohingyas et je n'ai jamais vu une telle situation, c'est incroyable. Vous savez, ma maison se trouve juste en face de la frontière birmane et tous les jours, on voit de 25 à 30 000 réfugiés arriver. Hier, de chez moi, j'ai même vu des villages en feu de l'autre côté du fleuve, tout brûlé.
Les portes en fer s'ouvrent finalement et les premières personnes sortent avec des sacs de 25 kilos de riz sur l'épaule. 25 kilos, c'est ce que l'ONU fournit à chaque famille réfugiée pour 2 semaines. Ce jour-là, l'association n'a pu en distribuer qu'à 2500 familles et le même combat reprendra dès le lendemain matin. À l'angle de cette allée, un épicier bangladais installé devant des sacs de riz et d'épices bien garnis est l'un des témoins directs de cette détresse des Rohingyas. Ces derniers viennent lui acheter comme ils peuvent ce qu'ils ne reçoivent pas des humanitaires.
La plupart des gens n'ont pas d'argent, donc ils utilisent de l'or comme gage. Il y a quelques minutes, une femme est venue et elle a enlevé sa bague. Et elle m'a dit « Donnez-moi du riz », mais je ne l'ai pas prise. Je lui ai juste donné de la nourriture. Ces gens, ils n'ont rien. Je ne peux pas leur prendre le peu qu'il leur reste pour survivre.
Mais cela ne représente pas une perte tout de même pour vous ?
Vous savez, je suis musulman. Ils sont musulmans. C'est comme mes frères. Et ils agonisent en ce moment.
On sort à présent de cette ruelle surpeuplée pour trouver une nouvelle marée humaine qui emplit cette fois la route nationale 1 et freine le passage des véhicules. Cette voie goudronnée longe la frontière avec la Birmanie du nord au sud. Et sur des dizaines de kilomètres, les réfugiés Rohingyas marchent ou campent sur le bas-côté sous de fines toiles de plastique. Des centaines d'enfants, moins épuisés par leur exode, courent après les voitures de particuliers à la recherche d'un peu de nourriture ou d'argent. Soudain, c'est un camion qui s'arrête et devant un océan de mains tendues, des bénévoles lancent des vêtements avant de repartir rapidement. Pour les adultes récemment arrivés, la journée est occupée à trouver de l'argent d'abord et du matériau pour se construire un abri. Deux éléments sont essentiels, une bâche de plastique noir d'abord et du bambou pour la structure. Ces biens sont disponibles, mais il faut les acheter. Un commerçant bangladais au ventre bedonnant est assis sur un énorme tas de tiges de bambou.
Ces grands bambous, je les vends pour 50 takas. Ils viennent du Bangladesh. Et ceux-là, plus vieux, pour 30 takas. Ils viennent de Birmanie. J'en vends entre 80 et 100 pièces par jour. Les affaires se portent bien.
50 takas, soit 50 centimes d'euros, cela paraît peu. Mais pour ces Rohingyas qui n'avaient déjà pas grand-chose et qui ont perdu leurs quelques biens en fuyant ou en payant les passeurs en bateau, cela est inabordable. Surtout que la plupart nous disent qu'on leur a vendu ce matériau bien plus cher. Les collines qui surplombent la route nationale accueillent les nouveaux camps de réfugiés. Des dizaines de tentes sont déjà installées et d'autres en train d'être fabriquées. Zahafar Ahmed a emprunté une bêche et commence à aplatir ce terrain vallonné. Derrière lui se trouve une longue tige de bambou et une bâche de plastique. C'est ici donc, sous ce toit précaire, que dormira et vivra sa famille pour l'instant.
Il y a une demi-heure, j'ai demandé à l'officier de police là-bas. Il m'a dit que je pouvais prendre ce terrain. Cela fait 8 jours que je suis arrivé, mais jusqu'à présent, nous dormions en plein air au bord de la route. Quand il pleuvait, nous étions trempés. Puis les gens qui passaient nous ont donné un peu d'argent il y a 2 jours. Cela nous a permis d'acheter le bambou. Pour la bâche en plastique, il y avait d'autres personnes qui en donnaient. Nous avons fait la queue pour les avoir, cela nous a sauvés.
Zahafar a fui la Birmanie avec ses 5 proches et des voisins de son village qui sont maintenant avec eux. 17 personnes en tout vont donc essayer de se partager un espace de tente d'environ 5 mètres carrés. Ces abris exigus protègent des pluies de cette fin de mousson et permettent également à ces réfugiés de faire une pause, de se recueillir et de repenser au massacre qu'ils ont fui. Car plus que des réfugiés, ces Rohingyas sont des rescapés. En quittant Zahafar, un autre homme nous interpelle et nous accueille sous une bâche de plastique. Mohamed Assad a le visage enfantin et les yeux encore effrayés. Ce Rohingya d'une 20aine d'années a fui son village situé proche de la frontière bangladaise le 4 septembre dernier avec 10 membres de sa famille, dont son enfant d'1 an et demi qu'il serre très fort dans ses bras. Le bébé a la peau des jambes et de l'abdomen gravement brûlée et ses croûtes rouges s'infectent. Mohamed raconte.
Les militaires sont arrivés soudainement et ont pris les femmes à part pour les violer. Puis ils ont brûlé nos maisons. Quand nous sortions, ils nous tiraient dessus. Enfin, ils ont pris la casserole d'eau bouillante qui se trouvait devant notre maison et l'ont jetée sur mon enfant.
Un peu plus loin, un homme âgé, les joues creuses sous une chevelure poivre et sel, est entouré d'une 100aine de personnes. Siraj Uddin a 66 ans, il est arrivé 2 jours auparavant. Il a fui de son village de Tong Bazar, situé près de la ville de Butindong, dans l'ouest de l'état d'Arakan.
Les bouddhistes avaient des fusils et des épées. Ils sont venus pour tuer et ils avaient l'air de prendre du plaisir à le faire. Je les ai vus abattre 7 personnes avant de m'enfuir. Je n'ai eu le temps de rien prendre avec moi, même pas ma famille entière. J'ai 14 enfants, mais seulement 4 d'entre eux sont avec moi, ainsi que l'une de mes femmes. Je ne sais pas où sont mes autres proches.
Siraj et 5 de ses proches s'enfouissent alors dans la jungle pour se protéger des attaques de l'armée. À vol d'oiseau, leur hameau se situe à une trentaine de kilomètres de la frontière du Bangladesh. Ils mettront 13 jours à la rejoindre en suivant les traces de pas de centaines d'autres Rohingyas passés avant eux.
En arrivant sur les berges de la rivière frontalière au moment de monter sur le bateau, les militaires nous ont à nouveau tiré dessus. Beaucoup de gens sont morts sur ce bateau. Allah nous a sauvés, mais je peux encore entendre les balles siffler.
Nous redescendons ensuite sur cette route nationale qui draine sans arrêt cet océan de réfugiés. Au bout d'une demi-heure de marche vers le sud, nous arrivons à ce qui ressemble à un énorme bidonville perché sur une colline. C'est Bahoukali. Ici, plus de 20 000 personnes vivent sous la tente. Au cœur de cette vallée, l'association bangladaise Gonoshastriya Kendra a installé une petite clinique sous un préau.
Nous avons un certain nombre de blessés par balles et également des brûlés. Beaucoup viennent avec des diarrhées aussi et des dysenteries. Dans un autre campement, c'est même pire. Une rivière passe au milieu et ils font leurs besoins et retirent de l'eau au même endroit. Et si l'hygiène n'est pas améliorée et de l'eau potable apportée, ils vont tomber malades du choléra.
Plus de 400 000 Rohingyas ont afflué sur ce bout de terre bangladais en à peine 3 semaines. Un exode d'une ampleur et d'une rapidité inédite, même pour la population Rohingya, qui est pourchassée par le pouvoir birman depuis des décennies. Les autorités de ce pays, majoritairement bouddhistes, ont toujours contesté le droit de cette population musulmane à vivre en Birmanie. La plupart de ces Rohingyas, qui parlent un dialecte proche du bengali, ont été transférés dans cette région fertile par l'Empire britannique qui voulait développer la culture du riz. Depuis lors, ils sont assimilés aux colons et après l'indépendance de 1948, les nationalistes bouddhistes veulent les expulser de Birmanie. En 1982, la junte militaire adopte ainsi une loi qui oblige les ethnies à prouver qu'elles étaient sur ce sol avant la colonisation. Les Rohingyas sont ainsi déchus de leur nationalité et deviennent apatrides dans leur pays d'origine. Les militaires entament ensuite leur politique de terreur dans le but de les faire fuir. En 1991, puis en 2012 et 2016, ils mènent des offensives qui entraînent l'exode de dizaines de milliers d'entre eux. Finalement, le 25 août dernier, un nouveau groupe armé Rohingya appelé l'ARSA lance une attaque qui tue 10 policiers birmans. Les militaires en profitent pour déclencher leur plus grande répression des villages Rohingyas. Ceux qui ne fuient pas sont ostracisés en Birmanie. Depuis 2012, les nouveau-nés sont privés de certificat de naissance et les étudiants interdits d'accès à l'université. Mohamed Saïmine, âgé de 20 ans et réfugié à Kutupalong, nous montre ses résultats scolaires qu'il a sauvés en fuyant.
Regardez, j'avais de très bons résultats, j'ai obtenu plus de la moyenne aux examens de seconde. Mais le maire m'a dit que je ne pouvais pas étudier davantage, car j'avais un nom Rohingya. Il m'a dit que si j'essayais, je pourrais être tué.
Rafik Mohamed a fait face aux mêmes brimades et discriminations. Ce Rohingya, qui porte un collier de barbe fourni sous un regard perçant, était un propriétaire terrien aisé. En Birmanie, il possédait 20 hectares de champs hérités de ses ancêtres où il faisait pousser du riz, des légumes et des épices. Aujourd'hui, il est assis, désespéré, à côté de sa petite tente du bidonville de réfugiés de Bahoukali. Tout ce qui lui reste de son ancienne richesse est une montre dorée qu'il porte encore au poignet.
Ils brûlent toutes les maisons. 700 personnes vivaient dans ce village. Ils ont tout incendié. Au moins 20 personnes ont été tuées par balles et d'autres brûlées vives. Et puis ils ont mis le feu à mes champs, ces champs dont j'ai hérité de mes ancêtres.
En prononçant ces mots, Rafik s'effondre en larmes. De longues minutes s'écoulent. Il se redresse doucement quand d'autres lui rappellent que toute sa famille a survécu au massacre. Il essaye alors de comprendre d'où vient toute cette haine envers les Rohingyas.
L'armée n'arrête pas de répéter que nous n'appartenons pas à la Birmanie, que nous sommes des Bengalis, des puants, que nous sommes néfastes pour le pays, qu'ils nous tireront dessus si nous restons. Mais je crois qu'ils sont jaloux de propriétaires terriens comme moi. Un certain nombre de Rohingyas a en effet hérité de terres de leurs ancêtres et prospère ainsi. Car c'est la seule chose que nous pouvons faire. Nous n'avons plus le droit d'aller à l'université ou de travailler comme docteur ou comme ingénieur, par exemple.
Cette politique de discrimination, d'exclusion et finalement de répression armée pour faire fuir les Rohingyas porte un nom. Cela s'appelle du nettoyage ethnique. Et c'est ainsi que le haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU a qualifié ces actes le 11 septembre dernier. Pourtant, en Birmanie, l'ancienne icône des droits de l'homme reste bien timide. La prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, qui est aujourd'hui à la tête du gouvernement civil birman, continue à nier l'ampleur du massacre dans cet état de l'Arakan, appelé Rakhine par les autorités. Le 19 septembre, elle prononce ce discours dans lequel elle oscille entre minimisation des crimes et pur mensonge.
Depuis le 5 septembre, il n'y a eu aucun affrontement armé. Malgré cela, nous sommes inquiets d'entendre que beaucoup de musulmans continuent à fuir vers la frontière avec le Bangladesh. Nous voulons découvrir pourquoi cet exode est en train d'arriver. Plus de 50% des villages musulmans sont intacts et nous invitons les diplomates à apprendre avec nous comment ces musulmans ont réussi à s'intégrer dans l'état de l'Arakan. Toutes les personnes de cet état ont accès aux services de santé et d'éducation sans discrimination. Les étudiants musulmans ont aussi accès à des études supérieures sans discrimination. Certains appellent au rapatriement des réfugiés qui ont fui de la Birmanie au Bangladesh. Nous sommes prêts à commencer dès que possible le processus de vérification des identités pour réaliser ce rapatriement.
Les militaires birmans, il faut le dire, exercent un contrôle sans partage sur les opérations dans cette région frontalière et Aung San Suu Kyi n'a donc pas de prise dessus. Mais pour beaucoup, son indifférence envers cette répression systématique de civils est coupable. L'armée birmane, quant à elle, soutient que les Rohingyas brûlent eux-mêmes leur village pour attirer la pitié de l'Occident. Human Rights Watch a utilisé des images satellites pour contrer cette version. Celle-ci prouve qu'au moins 200 villages ont été incendiés entre le 25 août et le 16 septembre. Philippe Bolopion est le directeur adjoint du plaidoyer pour l'ONG.
Ce qui était intéressant dans ce que Aung San Suu Kyi a dit lors de son discours, c'est que de son propre aveu, il n'y a pas eu de clash armé entre les insurgés Rohingyas et les services de sécurité birmans depuis le 5 septembre. Or, ce que nous prouve l'imagerie satellite, c'est que depuis le 5 septembre, il y a eu des dizaines et des dizaines de villages qui ont été entièrement brûlés. Donc l'armée maintenant ne peut plus prétendre qu'ils ont été brûlés dans des combats acharnés avec les insurgés Rohingyas, puisque d'après Aung San Suu Kyi, il n'y a pas eu de tel combat. Donc je pense que maintenant, il est clair qu'il faut tourner la page de Aung San Suu Kyi, qu'il faut maintenant se concentrer sur les généraux qui contrôlent l'armée, les services de sécurité qui sont aux manettes. Il faut les placer sous sanctions internationales, il faut qu'ils soient interdits de voyager dans des pays étrangers, il faut que leurs avoirs à l'étranger soient gelés, il faut que les entreprises qu'ils contrôlent en Birmanie soient placées sous sanctions internationales pour qu'au moins ils reçoivent le message.
Les capitales occidentales, jusqu'à présent frileuses, commencent à réagir dans ce sens. Le Royaume-Uni vient ainsi de suspendre son programme d'aide à l'armée birmane et des sénateurs américains aimeraient faire de même. Mais pour l'instant, les plus importants partenaires économiques de la Birmanie, l'Inde et surtout la Chine, défendent sans réserve la politique répressive des militaires birmans. Rohingya, l'exode sans fin vers le Bangladesh, c'était un grand reportage au sud-est du Bangladesh de Sébastien Farsi, réalisation Ludivine Amado.
Dar goi bari bari, biu shoy fat kayain.